17h42, vous êtes toujours à l'écoute de En profondeur sur CKUT 90.3 FM. Et bon, mais on a le bonheur d'accueillir Mathieu de La Patrie d'Anonyme. Bonjour Mathieu.
Salut Brad.
Ça va?
Ben oui, toi?
Oh, oui, t'as-tu passé un bel été?
Pas pire, ouais, pas mal bon. Il fait tellement beau de toute façon que c'est dur de se plaindre.
Ouais, c'est vrai, la météo était vraiment bonne cette année.
Puis là, ben Simon a fait la première chronique il y a 2 semaines pour les Apatrides Anonymes. Et puis, il y avait beaucoup, beaucoup de stock qui s'était passé pendant l'été. On peut pas dire que l'actualité prend des vacances. Fait que je continue avec toutes sortes de choses. Aujourd'hui, je vais commencer avec... ça m'a un peu frappé. Il y a beaucoup de politiciens dans différents pays. Frappé, c'est pas vraiment une surprise, mais qui prennent vraiment des tendances très à droite, très populistes et assez xénophobes ou racistes dans leurs propositions, leur projet de loi, leur programme. On parlera pas de Donald Trump nécessairement, là, mais il y en a d'autres dans plein de pays, dont ici, là, ils commencent à avoir vraiment des enjeux, puis c'est dans un contexte d'attentats terroristes et puis bon, d'immigration, de réfugiés, mais c'est quand même assez dangereux comme dérive. Il y a une course à la direction du Parti conservateur du Canada, hein, qui va s'éterniser jusqu'au mois de mai prochain.
Ouais.
Et là, les candidats vont rivaliser de propositions souvent assez dangereuse et populiste. La première qui s'est lancée, c'est Kelly Leach, députée ontarienne, qui a annoncé à peu près il y a une semaine qu'elle voulait mettre en place des dispositifs pour filtrer les immigrants et réfugiés aux valeurs anti-canadiennes. Donc, on tombe dans le très général, évidemment. Ouais. Bon, c'est pas la candidate favorite, mais quand même, ça donne un peu le ton. Elle a soumis un sondage à ses militants, cet été, et elle a décidé, bon, selon les résultats qui sont pas disponibles, là, que les gens voulaient, les gens de son parti, ses militants voulaient vraiment que le Canada propose des politiques qui feront du Canada un pays plus sécuritaire et plus fort et qui consolideront une identité canadienne unifiée. Donc, c'est ça, ses termes, quand elle a annoncé la nouvelle. Et comme je te dis, on précise pas vraiment c'est quoi les valeurs anti-canadiennes dans ce cas-ci. Mais c'est un peu dans la même lignée. Je sais pas si tu te rappelles, à la campagne électorale en 2015, Harper avait proposé qu'il y ait une ligne téléphonique de délation pour signaler de présumées pratiques culturelles barbares.
Oui.
Donc, il y a une ligne 1-800 que les gens pourraient appeler. Bon, ça a été après, bon, rejeté par le parti quand ils ont perdu les élections. Mais cette femme-là, Kelly Lynch, avait dénoncé les larmes aux yeux cette proposition-là. Puis là, elle revient avec des trucs des valeurs anti-canadiennes. Fait que c'est vraiment à s'y perdre. Le seul candidat qui l'a pas dénoncé, c'est Tony Clement, un ancien ministre conservateur de l'Ontario. Et lui, aujourd'hui, a sorti ses propositions en immigration et en sécurité nationale. J'ai pas eu le temps de les noter. C'est sorti après-midi, mais c'est un peu dans le même sens. On parle d'enlever la nationalité à des gens soupçonnés de terrorisme, de beaucoup durcir les peines de prison. Donc, on va en entendre parler. Ça va être, je pense, le concours de qui est le plus dur, finalement, avec les immigrants et les réfugiés. Donc, ça risque d'être un petit problème dans les prochaines semaines. Puis, je te rappelle, le vote est seulement au mois de mai.
Ouais.
Ça va être très long.
Ouais, ça va être grave. Puis surtout, écoute, en Ontario, là, c'est une province qui est très, très, très multiculturelle. Là.
Exactement.
C'est beaucoup plus que le Québec même. Là. Puis jusqu'à présent, là, ils ont été plus ouverts d'esprit. Là. Fait que...
Mais là, c'est le Parti conservateur du Canada. Hein. Fait que c'est sûr que, tu sais, bon, on s'entend que... Donc, voilà. Fait que sinon, ben ici au Québec, François Legault, t'en as entendu parler, j'imagine, de la CAQ. L'année passée, il avait proposé imposé un test des valeurs à tout nouvel arrivant au Québec, voir s'il y avait des bonnes valeurs et tout ça. Et là, il a demandé dans un des caucus qu'ils ont eu dans les dernières semaines que le nombre d'immigrants soit baissé de 50 000 à 40 000 au Québec, donc de 20%, sous prétexte, bon, qu'il n'y a pas assez de budget pour les intégrer, il n'y a pas assez d'emplois pour eux, il n'y a pas assez de francisation. Mais on sait très bien que Legault et sa gang sont beaucoup aussi assez nationalistes et n'aiment pas trop ça qu'il y a trop d'immigration. Et il dit s'inquiéter de l'avenir de la langue française et des valeurs essentielles de la société québécoise. Donc, on parle de valeurs encore comme au fédéral. C'est sûr qu'il a été dénoncé, il a été traité de Donald Trump, d'ailleurs, par d'autres politiciens. Donald Trump du Québec, si on veut. Mais c'est sûr que tous les gens qui suivent le dossier, qui suivent un peu l'intégration des immigrants, savent très bien qu'il n'y a pas assez de sous pour bon des cours, pour des formations, ça c'est clair. Mais c'est ça qu'il faut améliorer, non pas diminuer nécessairement le nombre d'immigrants en conséquence. Donc, puis beaucoup de gens se demandent 40 000, pourquoi 40 000, c'est 50 000 actuellement, pourquoi c'est un peu dur à suivre, là, il explique pas son chiffre en tant que tel, ça changerait quoi là dans les faits. Donc, ben voilà. Puis, beaucoup d'autres disent aussi que le le Québec contrôle déjà une bonne partie de son immigration. Les immigrants reçus sont sélectionnés par le Québec à un certificat, bon, tout ça. Et le français est une des bases. Mais la balance, tout ce qui est réfugiés, réunification de famille, parrainage, ça, c'est le fédéral qui décide, puis il n'y a pas une question de langue. Fait que beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas grand-chose à faire par rapport à ça. C'est vraiment de la petite politique là, pour aller chercher des votes. Faut dire que les libéraux du Québec de Couillard avaient proposé au printemps dernier de monter ça à 60 000. Finalement, ils sont revenus sur leur idée. Et au printemps dernier, ils ont sorti finalement qu'ils voulaient augmenter ça à 51 000 et 52 000 en 2018 et 2019. Et dans la foulée de la sortie de Legault, ben, la ministre de l'Immigration, Kathleen Vail, a ressorti dans les médias sa proposition qu'elle avait publiée au printemps, qui s'appelle « Ensemble, nous sommes le Québec », qui parle bon d'augmenter les budgets en immigration, de monter tranquillement les seuils, et vraiment d'orienter la politique, contrairement à ce que fait les libéraux au fédéral, de vraiment orienter l'immigration en fonction des besoins du marché du travail des entreprises canadiennes. Fait que là, on veut vraiment aller vers des raisons économiques uniquement, et non pas des raisons humanitaires, par exemple, des raisons culturelles pour les réfugiés politiques. Donc, c'est vraiment une tendance des libéraux forte à Québec d'aller vers aller chercher ce qu'on a besoin un peu au hasard, filtrer les gens, puis bon, on va chercher dans le fond des travailleurs ou quasiment des machines, finalement, qu'on a besoin pour remplir nos besoins au niveau économique. Fait que ça, c'est une politique aussi qui est contestée par beaucoup de monde. On s'en va en Europe. En France, ça joue à Célé aussi. Il y a une campagne présidentielle l'année prochaine. Le Front National est en avance. Donc, tous les candidats se poussent vers la droite pour essayer d'aller chercher cet électorat-là. Ouais.
Loin à droite.
Surtout la droite traditionnelle, là, qui s'appelle maintenant les Républicains, qui s'appelait avant UDF, RPR, tout ça. François Fillon, l'ancien premier ministre, a déclaré il y a deux semaines dans un meeting politique que... Je cite, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Quand il dit partager sa culture, il parle de la colonisation de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Donc, c'est assez spécial comme façon de voir les choses, de partager sa culture en envahissant et en imposant des pays pendant des siècles, des politiques et en suçant toutes leurs ressources naturelles, par exemple. Donc, on parle de colonisation, lui parle de partage de culture. Donc, on appelle ça du révisionnisme, un petit peu. Et dans la même foulée, il a dit qu'en France, on devait revoir l'enseignement de l'histoire parce qu'on apprend aux enfants à comprendre que le passé est source d'interrogation et d'erreur et que faire douter de l'histoire de France, c'est honteux. Donc, il veut reviser l'histoire aussi, l'enseignement de l'histoire au primaire, secondaire pour les enfants parce que c'est une histoire négative, parce qu'on dit que la France a fait des choses pas correctes dans le passé. Et il propose donc de réécrire les programmes d'histoire avec l'idée de les concevoir comme un récit national avec des héros, des légendes et des belles périodes. Donc
Du partage de culture.
Et du partage de culture consentant, j'imagine, entre tout le monde. Donc ça, c'est quand même spécial. Et un autre en France qui s'appelle Jean-Pierre Chevènement, qui est un ancien ministre, qui est candidat à prendre la tête de la Fondation pour l'Islam de France, qui est un organisme sans but lucratif qui ramasse des sous pour financer toutes sortes d'initiatives pour la culture de l'islam en France. Et il a fait plein de déclarations aussi assez particulières dans les dernières semaines. Entre autres, il parlait de la banlieue de Saint-Denis, qui est une banlieue... multiculturel dans la banlieue de Paris. Et il disait donc qu'il y avait 135 nationalités à Saint-Denis, dont une qui a quasiment disparu, c'est-à-dire les Français. Mmh. Puis là, il s'en va pour diriger un truc sur l'islam, c'est un peu particulier. Il dénonce beaucoup le communautarisme, évidemment, ce qui est beaucoup à la mode en France. Et il demande aux musulmans d'être discrets dans l'espace public, c'est-à-dire ne pas afficher leur particularité ou leur trait culturel. Et aussi, il a évoqué une redevance qui pourrait être faite sur la bouffe halal. Donc ça, c'est pas précisé. J'ai pas pu trouver d'informations plus précises, mais j'ai fait, bon, OK, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir payer plus cher pour avoir de la bouffe halal ou de la nourriture halal ou tout ce qui est halal va devoir payer... En tout cas, c'est pas clair, c'est un peu particulier, mais on est dans ce genre de débat-là en France à quelques mois d'élections importantes et dans tout le contexte qu'on connaît des derniers mois, ça joue dur quand même France. Écoute, l'Allemagne qui a eu quelques petits attentats cet été, ben plus des gens et des individus qui ont attaqué du monde dans un train, pas des gros attentats à la bombe et tout. Mais là, évidemment, je sais pas si tu le sais, mais il y a un parti en Allemagne qui s'appelle l'AfD, Alternative for Deutschland, qui est un parti d'extrême droite qui gagne de plus en plus de votes, des élections. On est toujours un peu dans la même logique. Et donc, le gouvernement, qui est un mix entre la droite et le centre-gauche, ben, durcit son discours, comme par hasard, c'est le même réflexe. Donc, virage sécuritaire. Le ministre allemand de l'Intérieur a annoncé une batterie de mesures dans les dernières semaines, en collaboration avec tous les ministres conservateurs de l'Intérieur des différentes Länder, des différentes provinces en Allemagne. Et on parle ici encore d'enlever la nationalité à ceux qui sont accusés de terrorisme, comme en France, on a essayé, ça n'a pas marché, comme Clément, oui. Tantôt j'en parlais, veut le faire aussi. On parle aussi de créer comme motif d'arrestation la mise en danger de la sécurité publique. Mais ça viserait juste les étrangers. Donc, les gens qui n'ont pas la citoyenneté, c'est un peu particulier quand même. Ouais. Les procédures d'expulsion seraient aussi accélérées. évidemment, quand on est accusé de mettre en danger la sécurité publique parce qu'on est suspect de préparer des attaques. Sinon, augmenter de plusieurs milliers de personnes les effectifs de police, investir dans les technologies de reconnaissance faciale, unifier les forces spéciales allemandes, ainsi que renforcer la lutte contre la cybercriminalité. Donc ça, c'est la batterie de mesures qui ont été annoncées. Et ben évidemment, c'est pour plaire à l'électorat, comme je disais tantôt. Ouais. Et on veut aussi limiter le port de la burqa et du niqab dans un paquet d'endroits publics. En Allemagne, j'étais assez neutre là-dessus depuis longtemps, mais là, on essaye donc interdire le port de la burqa et du niqab au volant. Ça, j'ai trouvé ça quand même assez particulier.
Les burkinis aussi, hein, j'imagine.
Écoute, ils n'en ont pas parlé, mais j'imagine que c'est dans le même, c'est dans le même état d'esprit. Donc, écoute, il me reste quelques minutes quand même.
Oui, écoute.
Ça, c'est des politiques, des politiciens dont on entend parler, mais je voulais juste mettre ça en parallèle avec deux événements que les médias n'ont pas beaucoup parlé. Je ne sais pas si tu es au courant. À New York, dans le Queens, il y a eu deux imams qui ont été assassinés il y a deux semaines dans Queens, où est-ce qu'il y a un quartier qui s'appelle le Petit Bangladesh, des gens d'origine bangladi. Un homme qui leur a tiré deux balles dans la tête, puis il y avait de l'argent sur eux, il n'a pas pris l'argent, fait que c'est vraiment un crime haineux ou racial. Et il y a eu plusieurs manifestations à New York. On a sorti le slogan « Muslim Lives Matter » aussi, qui est sorti depuis quelques semaines suite à cet événement-là. Et bon, les gens de la communauté parlent d'islamophobie grandissante, entre autres à cause de Trump, à cause de tout le climat qu'il y a actuellement. Et moi, je trouve ça important quand même de montrer qu'il y a des politiciens qui prennent des décisions, mais il y a aussi des conséquences sur le terrain, des fois, pour les gens ordinaires. Et on se retrouve avec une augmentation là, des crimes ou des actes contre les immigrants dans certains pays. Dans la banlieue de Paris, à Robert Villiers. Il y a un Chinois qui a été assassiné il y a deux semaines aussi par des gens qui l'ont volé, mais battu en même temps. Et moi, je ne savais pas, Robert Villiers, c'est une banlieue française de 77 000 habitants. Il y a près de 4 000 personnes d'origine chinoise. Et il y a des attaques fréquemment de plus en plus depuis quelques temps. On parle qu'en un an, les attaques avec violence ont triplé contre les Chinois dans cette communauté-là. Wow. Des fois pour des vols, des fois pour des crimes plus haineux, mais il y a vraiment un problème. Fait que donc, les Chinois ont fait plusieurs manifestations depuis quelques semaines aussi à Paris, dans la banlieue. Des choses qu'on n'entend pas parler beaucoup dans les médias, mais que je trouve important quand même. Et évidemment, les Chinois sont très organisés au niveau communautaire, ils sont assez solidaires, puis ils s'organisent beaucoup. Mais malgré ça, ils sont vraiment en train de se demander s'ils vont rester. Ils déconseillent à leur famille de venir. Donc, ça commence à faire des climats assez assez particuliers.
Ça a-tu des motivations plus culturel parce qu'ils sont immigrés ou c'est religieux?
C'est pas clair. Ben, c'est ça. C'est plus, je pense qu'il y a à la fois des vols parce que les Chinois ont des réputations de faire du commerce et tout et tout. Je pense qu'ils jouent là-dessus. Okay. Mais il y a aussi des attaques vraiment gratuites de gens qui se font juste battre comme ça. Donc, c'est pas clair. Il y a eu quelques attaques, mais c'est pas défini exactement dans chaque cas c'est quoi. Mais il y a une tendance assez dangereuse. Puis en terminant, Brad, je voulais juste mentionner quand même. Petite bonne nouvelle, entre guillemets, je sais pas si tu le sais, mais l'Australie a un régime assez particulier de détention des immigrants.
Oui.
Ils font de la sous-traitance dans des petits états autour de l'Australie, donc en Océanie. Il y a l'île de Nauru et il y a aussi l'île de Manus qui appartient à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et depuis des années, les Australiens refusent d'amener sur leur territoire les gens qui arrivent par la mer de façon non officielle.
Okay.
Donc, ils mettent dans ces îles-là pour être sûrs qu'ils peuvent pas leur donner le statut de réfugié, qu'ils peuvent pas faire de demande parce qu'ils sont pas sur le territoire australien. Fait qu'ils sous-traitent depuis des années. Et là, il y a deux semaines, le Guardian a coulé, dans le fond, 2000 dossiers qui révélaient des pratiques assez terribles qui se passaient sur ces îles-là, c'est-à-dire, beaucoup d'attaques, de viols, d'agressions, Ce qui fait que les bon, ça a sorti publiquement dans les médias, les, tout le monde s'en est emparé, et surtout que tout le système est basé là-dessus au niveau pour l'Australie, c'est vraiment basé là-dessus de sous-traiter la détention. Et finalement, ils ont annoncé il y a deux semaines, là, ben une semaine après dans le fond, l'Australie qui fermait un des deux camps, celui de Manus. Donc, mais il y a 800 personnes là qui ils veulent toujours pas les avoir chez eux, fait qu'ils disent ils vont rester en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou ils vont s'en aller chez eux. Mais c'est des gens qui sont là depuis des années, qui ont jamais pu faire de démarche. Et fait qu'il y a une espèce de no man's land au niveau juridique puis au niveau humanitaire. Et l'Australie a réagi dans le fond à ces rapports-là qui les blâmaient en fermant un des deux centres. Mais finalement, il y a toujours pas de solution. L'autre centre est toujours ouvert et les gens qui sont là peuvent pas aller en Australie. Ils veulent les renvoyer chez eux, mais ils peuvent pas techniquement le faire. Donc c'est vraiment une espèce de situation. Si les gens veulent fouiller, ça vaut la peine d'aller voir ce qui se passe du côté de l'Australie et son régime de détention des réfugiés.
Oh, mais c'est vrai. C'est pas une grosse bonne nouvelle, mais ça en est un peu.
Non, ils ont tout obligé, ils ont fait tourner un bras, mais la suite, on sait pas. Il y a comme un espèce de blanc, là. Fait que...
Ben, super. Ben, merci. Puis, sais-tu ce qu'on a avec nous dans deux semaines?
Oui, ça va être Marie-Ève dans deux semaines.
On aura Marie-Ève dans deux semaines. Merci, Mathieu.
Merci, Brad.
Puis, bonne fin de journée.
Bonne soirée, bye.